Nous voici, c'est dans une semaine vraiment que commence le dimanche des Rameaux, vraiment aux portes de la semaine sainte. Cette dernière halte, eh bien, nous la faisons avec Jésus à Jérusalem à la suite. Ce texte-là fait suite de du récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous sommes comme les disciples. C'est des Grecs là, ce sont des croyants, des Juifs grecs, mais déjà ils sont les représentants du monde païen, d'où ils viennent, ils ne sont pas de la Palestine. Et ils demandent, vous voyez, c'est le moment où Jésus commence à étendre sa prédication au-delà des frontières. Et les disciples sont comme nous, ces Grecs ou d'autres d'ailleurs, peu importe. Ils sont comme nous, nous venons devant le Seigneur, nous croyons qu'il est le maître de la vie. Vous voyez, toute cette foule est réunie et l'acclame parce qu'il vient de ressusciter Lazare. Et ça dépasse tous les autres miracles que Jésus a pu faire. Et là, comme eux, ils ont plein de choses à demander à Jésus et nous aussi. Ils lui demandent, sans doute, veulent-ils lui demander de venir chez eux, prêcher comme il prêche en Galilée, comme il prêche en Judée et partout en Israël, de venir y accomplir des miracles et guérir des malades, ressusciter des morts, chasser des démons. Mais pour rendre plus vivifiant la foi des communautés juives qui sont déjà là-bas, pour que le Messie soit proclamé au-delà des frontières d'Israël. À ce moment-là, on a les deux témoins de la multiplication des pains. C'est Philippe d'abord et André ensuite. Ce n'est pas les trois témoins de la transfiguration, là. Et qu'est-ce qui les relie? Vous voyez, ça commence toujours par Philippe. Sur la montagne, il est interpellé par Jésus et André arrive à ce moment-là avec les cinq pains et les deux poissons, mais s'interrogeant sur les capacités de donner tout pour nourrir une telle foule. Ce qu'il y a en commun, c'est la proclamation du Christ roi. Sur la montagne, Jésus est parti se cacher parce que les disciples, la foule, voulaient le faire roi, mais ils n'étaient pas prêts. Tandis que maintenant, Jésus a accepté l'hommage royal par son entrée triomphale à Jérusalem. C'est que le temps est accompli. Et c'est que le miracle qu'ils ont contemplé et qui produit en eux la foi n'est plus un miracle seulement matériel de prospérité, bien manger, bien boire, avoir de belles maisons, etc. Là, c'est la vie. Il a ressuscité Lazare et c'est pourquoi la foule, eh bien, le proclame roi. Alors ils sont mûrs. Et Jésus aussi est mûr, c'est son heure. Il est aux portes de la passion. Il y a donc ces deux disciples qui viennent trouver Jésus. Ils viennent avec toutes les demandes des fidèles. Et Jésus se met à leur parler d'autre chose. Jésus leur parle mystérieusement d'un départ, il leur parle de la mort. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Alors c'est pour lui, haïr sa vie en ce monde, pour la garder. Et au contraire, l'autre enjeu, c'est d'aimer sa vie et finalement de la perdre. Quel est ce qui se passe au moment de la passion? Jésus regarde ailleurs, il ne regarde plus les prières qui lui sont faites pour ce monde présent. Il regarde vers l'éternité. Et c'est ça son heure. Son heure, c'est celle de l'éternité. Nous devons faire de même. Et la mort dont il parle, elle est caractérisée par le fait de ne pas avoir la vie en nous-mêmes. Par définition, c'est tautologique, mais c'est religieux de dire ça. Parce que nous, par la foi, par le baptême, par les sacrements, par la parole de Dieu et par l'Eucharistie, par notre prière, par notre amour de Jésus, nous avons la vie en nous-mêmes. Dès la vie terrestre. Nous commençons le processus de résurrection et ça commence par la foi. Aussi, au moment de notre mort physique, eh bien, nous ne paraîtrons pas en jugement. C'est ce que nous dit Jésus, c'est ce qu'il explique à ses fidèles. Là, il faut regarder, il ne faut plus de prières de demande à ce moment-là. Vous voyez, quand on arrive à ce stade de la foi transformant, il nous dit ce qu'il faut, c'est se concentrer sur la présence du Maître en chacun d'entre nous. Et cette présence, eh bien, elle est réellement transformante. Et ce que Jésus nous dit, c'est que la passion, ce n'est pas fait seulement pour lui-même. Bien sûr, lui, il va la vivre. Bien sûr, il est ce grain de blé qui est seul au moment de l'incarnation, mais qui va porter tant de fruits au long de l'histoire de l'Église. Mais il nous dit que cette transformation de la passion est aussi notre chemin et que c'est la seule manière d'être transfiguré. Il y a une transfiguration qui est une sorte de résurrection anticipée. On a ici, on le remarque peu, mais il y a des miracles au moment de la passion du Seigneur. Le premier, c'est celui-là. C'est cette voix qui vient du ciel et qui lui parle. Ceux qui n'ont pas encore assez de foi s'imaginent entendre le tonnerre. D'autres, eh bien, se disent qu'un ange a parlé à Jésus. Mais ce n'est pas encore allé assez loin. Le troisième groupe, celui qui normalement est celui des disciples, ressuscité par la foi, devrait comprendre que cette voie n'est pas faite pour Jésus seul, mais pour ceux qui accueilleront le Christ dans leur vie. Et il y a exactement le même climat qu'au moment de la transfiguration, mais moins glorieux. C'est celui de la passion, ce climat-là. Et Jésus, eh bien, applique sa glorification à ses fidèles, à nous-mêmes. Alors nous venons, comme les foules, trouver le Seigneur avec toutes nos demandes, nos désirs, nos frustrations, notre désir de grandir dans la vie, dans la connaissance de lui. Et Jésus, eh bien, nous parle de ce qui lui tient le plus à cœur. Maintenant, mon âme est bouleversée. Il faut rejoindre Jésus dans sa confidence, elles sont rares. Les confidences de Jésus sur son intériorité, sur ses sentiments, c'est rarissime. Et le moment où il nous confie ses sentiments, c'est le moment de la passion. C'est pour nous dire que son âme est bouleversée. C'est tout le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre, je ne sais pas moi. Les derniers discours, vous savez, après la scène, au moment de la dernière scène, chez Saint Jean, qui sont très développés, eh bien nous confie la même chose. Le ton de Jésus devient tendre, le ton envers ses disciples, il devient une confidence. Il a aussi une certaine tristesse et angoisse, exactement comme maintenant. Il est saisi là par le chemin qu'il doit emprunter. Nous-mêmes, ça doit être notre chemin. Notre âme doit finir par être bouleversée, mais non plus par ce qui lui manque, hormis le principal, la lumière, pour devenir des fils de la lumière. Mais elle doit être bouleversée par son incapacité à rejoindre Dieu. Elle doit être bouleversée par l'incapacité des autres âmes à rejoindre Dieu. Elle doit être bouleversée par un monde dont Dieu n'est pas le prince. Mais ce prince-là sera jeté dehors, finalement. Et c'est la grande révélation de la foi, c'est ça, la royauté du Christ. Oui, le Christ doit être notre roi, d'abord pour nous-mêmes, en nous-mêmes, dans nos vies, et puis ensuite pour tous ceux auprès desquels nous vivons, nous sommes envoyés. Vivons de la lumière, tant que la lumière est parmi nous, dit Jésus à la fin de ce passage-là, qui continue ce passage-là. Et vraiment, il nous faut désirer cette mort mystique, cette mort à nous-mêmes que Jésus met sous nos yeux. C'est la première résurrection. Celui qui meurt à lui-même, eh bien, opère la première étape de la résurrection. Voici l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce n'est pas seulement pour la fin des temps, pour la mort physique, c'est aussi pour la vie présente que Jésus formule cette parole de sagesse. Les morts, c'est spirituel. On peut être vivant biologiquement et mort spirituellement, avoir des cœurs morts, avoir des esprits, des intelligences mortes. Désirons la vie, désirons la lumière.